Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Qu'on se le dise, le trou de la Sécu a vécu. L'ultime budget du quinquennat pour la sécurité sociale prévoit un quasi-équilibre en 2017, s'agissant en tout cas du régime général. Le projet de loi vient d'être soumis ce mercredi au vote solennel des députés et tout juste adopté. Or cet équilibre, c'est en grande partie à la branche vieillesse qu'on le doit. Elle sera excédentaire l'an prochain d'1,6 milliard d'euros. Excédentaire, voilà un qualificatif qu'on avait oublié d'utiliser s'agissant de notre système de retraite. Pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, aucune réforme de ce système ne s'impose aujourd'hui pour des raisons financières. On est aujourd'hui, ni peut-être demain d'ailleurs, puisque les projections du Conseil d'orientation des retraites sont elles aussi fortement teintées d'optimisme. La démographie, notamment, devient plus favorable. Ce problème urgent étant résolu, la réflexion sur les façons d'améliorer l'équité et l'efficacité du système de retraite français doit être engagée. C'est ce qu'écrivait il y a quelques jours dans Les Échos l'économiste Jean-Michel Charpin, connu pour le rapport portant son nom qu'il avait rendu sur ce sujet en 1999. Alors le problème des retraites appartient-il au passé ? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Monica Keisser, bonsoir. Vous êtes responsable de la division des politiques sociales à l'OCDE. Vous travaillez notamment sur la question des retraites, ce qui vous vaut d'être membre du Conseil d'orientation des retraites. Pour discuter avec vous, Christophe Rameau, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Et puis notre troisième invité, Nicolas Lecossin, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. C'est un think tank libéral qui vient tout juste de publier, enfin tout juste, c'était début octobre, c'est pas très vieux, une étude intitulée « Réforme des retraites pour la création d'un compte personnel retraite et la mise en place des fonds de pension ». Le fonds de pension, c'était un sujet dont on parlait beaucoup il y a quelques années. Ben voilà, vous le remettez au goût du jour. Évidemment, on aura l'occasion d'en discuter. Mais je voudrais qu'on démarre par ce diagnostic et par ce constat dressé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Donc, je rappelle sa phrase, enfin, elle le redit à plusieurs reprises. Aucune réforme des retraites ne s'impose aujourd'hui. Le aujourd'hui, évidemment, est important pour des raisons financières. Le financier est important également. Mais en tout cas, est-ce qu'elle a raison de dire cela, Monica Keisser?
Oui, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas besoin de s'aimer la panique et dire que les retraites sont en danger en France. De toute façon, le sujet des retraites, c'est toujours, dans tous les pays, un sujet de très long terme, parce qu'on met des règles en place aujourd'hui qui vont être valables pendant longtemps et qui affectent la façon dont les jeunes qui entrent aujourd'hui dans le marché du travail vont voir leur pension évoluer dans le futur. Donc pour l'instant, s'il n'y a pas de crise financière, il faut effectivement peut-être pas agir tout de suite. Mais d'un autre côté, il faut quand même aussi voir, en comparaison internationale, que la France dépense beaucoup pour les retraites. C'est un choix de société. Et en matière de dépenses sociales, la France est leader de tous les pays OCDE en termes de dépenses. Donc, ce qu'on dépense pour les retraites, on ne peut pas dépenser à la fois ailleurs.
Alors, en tout cas, pour ce qui concerne le court terme, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous partagez cet avis, Nicolas Lecossin. C'est vrai que si on regarde les projections qui sont faites par rapport au budget de la Sécurité sociale, 2017, donc 1,6 milliard d'euros prévus pour la branche vieillesse. Alors, sachant que dans cette branche vieillesse, on ne compte pas le fonds de solidarité vieillesse qui concerne le minimum vieillesse. Enfin, essentiellement, il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est essentiellement le minimum vieillesse qui, lui, restera déficitaire. Enfin, on va dire que sur l'ensemble du système de retraite, on est quasiment à l'équilibre. Nicolas Lecossin.
Tout d'abord, je pense, et là je suis d'accord avec madame, il ne faut pas voir à court terme. Les retraites, c'est toujours à long terme, c'est inévitablement à long terme. Deuxièmement, il faut savoir pourquoi on est à l'équilibre, comme le dit, pour citer la ministre. C'est parce qu'on a fait des sacrifices dans le privé, parce que les retraites ont baissé, parce qu'on cotise beaucoup plus, parce qu'on travaille plus longtemps dans le privé et parce qu'on a siphonné le fonds de vieillesse dont vous venez de parler, parce qu'on a transféré l'argent, on a pris l'argent qui était l'épargne pour les retraites, on a pris l'argent pour payer les retraites. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on ne tient pas compte des retraites du public. Et là, le problème est très grave, parce que les retraites du public ne sont pas provisionnées. Donc, si on tient compte de tous ces facteurs, oui, la ministre a raison, mais il faut quand même tenir compte de ces facteurs.
La ministre a raison, mais, Christophe Rameau ?
Non, d'abord, les efforts, ils ont été faits aussi par les salariés du public. Hein. Toutes les réformes, le recul de l'âge de la retraite, augmentation de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, ça a concerné les salariés du privé, mais aussi ceux du public, qu'ils soient fonctionnaires ou qui travaillent dans les entreprises publiques. Sur le panorama un peu général, je pense qu'effectivement, l'intérêt de l'équilibre qu'on retrouve, là, c'est de sortir d'un discours catastrophiste qui sert les libéraux. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens, et notamment les jeunes, sur la retraite, ils disent, mes grands-parents ont le droit à la retraite, ils vivent plutôt bien, mes parents iront peut-être le droit, mais ils sont persuadés qu'eux n'iront pas le droit ou auront des miettes. Et bien entendu, ça conforte le point de vue libéral, selon lequel, s'ils en ont les moyens, ils vont être incités à se tourner vers la capitalisation. Or, ce que montrent les travaux du COR, c'est qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits, qui sont d'ailleurs en partie contestables. Hein, il faut savoir que notre système de retraite, il consiste à dire, voilà, on a une population qui vieillit malgré tout, même si on a un taux de fécondité en France qui est assez joli. On a une population qui vieillit, donc on a fait le choix social de prendre une plus grande part de la valeur ajoutée. C'est-à-dire la richesse monétaire, c'est ça les pensions. On en prend une part pour financer les retraités. On était aux alentours de 5% en 1960. On est à 14% à peu près aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on, et donc ça signifie quoi? Ça signifie que dès lors que la richesse s'accroît, ça signifie que ceux qui sont en activité ont vu leurs revenus progresser malgré tout, mais moins vite que la richesse globale, parce que on a fait le choix de faire bien vivre les retraités. Et on doit être fier de ça. La France est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles. C'est très beau. Hein. On est toujours sur la France va mal, etc. Mais c'est très joli. Alors le problème que j'ai, moi, avec, y compris les scénarios du COR, c'est que on a un logiciel libéral qui s'inscrit dans les têtes avec l'idée que ce qu'on a fait hier et qu'on a très bien fait, qui a permis de transformer, y compris le risque vieillesse, en un véritable droit au bonheur, celui d'être retraité, eh bien, les projections à 2060, elles sont toutes calées sur l'idée qu'on n'augmentera plus le taux de prélèvement. Voilà. On n'augmentera plus le taux de prélèvement, et donc ça signifie quoi? Ça signifie que le niveau des retraites par rapport au niveau des revenus d'activité va baisser. Alors attention, ça c'est un point négatif, je termine. Malgré tout, le point positif, pour pas aller dans le discours catastrophiste qu'entretiennent les libéraux, c'est que le taux de remplacement va baisser, mais malgré tout, le niveau de vie des retraités va augmenter à l'horizon 2060. Il va augmenter de l'ordre de 50% selon les travaux du COR.
Alors ça, c'est quand même pas rien. Ça, ce sont pour les projections 2060, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'elles valent, parce que 2060,
non, mais il y a les projections,
on est quand même à plus de 40 ans, et c'est toujours compliqué, parce qu'on voit bien à quel point les projections peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Alors d'ici 40 ans, c'est toujours un petit peu compliqué, mais pour rester en tout cas sur le constat du moment, est-ce qu'on peut dire que le principal, la principale cause de ce rétablissement de la situation financière des retraites, c'est quand même lié aux réformes qui ont été menées. Et Dieu sait qu'il y en a eu quelques-unes depuis 1993. C'était la première réforme. Il y a eu 2003, 2010, 2014, 2008, qui était la réforme des régimes spéciaux. C'est avant tout ça, l'effet de ces réformes, Monica Kaiser?
Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'effets de ces réformes. C'était des réformes très substantielles, notamment celle de 93. Et c'est souvent négligé parce que c'était une réforme très technique où pas tout le monde a compris qu'est-ce que ça implique d'indexer sur les prix. C'est un concept très technique, mais qui a eu un impact assez fort sur le niveau des retraites.
Donc, très technique, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire, en fonction du niveau de les retraites évoluent de la même manière qu'évoluent les prix, donc est indexé sur l'inflation. Enfin,
ce que les revenus dans le passé et comment on adapte ça. Et c'est là où vous avez un impact financier assez grand. Donc, définitivement, la situation aujourd'hui est le fruit de beaucoup de réformes qui se sont faites dans le passé.
De toutes les réformes ou d'une réforme en particulier? C'est-à-dire, comme il y a forcément un décalage entre le moment où on vote une réforme et le moment où elle entre en application, ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt la réforme Fillon de 2003, plutôt la réforme Woerth de 2010, ou c'est vraiment le package global, disons, qui fait que la situation s'améliore sur le plan financier. Je reste sur ce terrain financier.
C'est le package de toutes les réformes qui ont été faites, mais on voit aussi des effets des réformes plus récentes, par exemple par l'augmentation de l'emploi senior, où les gens travaillent plus longtemps maintenant, et que ça, pendant très longtemps, c'était stagnant en France, mais on voit maintenant que ça augmente comme dans les autres pays.
Nicolas Lecossin.
Alors, il y a eu beaucoup de réformes, effectivement. Fillon, Balladur, Charpin, vous l'avez cité, plein d'autres depuis 93. Mais toutes ces réformes ont été des réformes, ce qu'on appelle des réformes paramétriques. On a ajusté un petit peu, on a fait des petites réformettes et pas des réformes systémiques. On n'a pas changé beaucoup les systèmes. Et là, j'insiste sur ce point-là. Ce n'est pas notre opinion, dans notre institut, on voit ce qui se passe ailleurs. Partout dans les autres pays, on a fait des réformes systémiques. Je parlais bien des pays riches et démocratiques, bien évidemment. Il y a plusieurs piliers, il y a un pilier par capitalisation, il y a un pilier par points, etc., etc. Donc, en France, on ne l'a pas fait. Ce constat de notre ministre est valable vraiment à court terme. À long terme, bien évidemment, si on travaille jusqu'à 90 ans, le problème des retraites est réglé. Mais on ne peut pas faire ça. Il faut faire des réformes systémiques comme c'est passé dans les autres pays. Donc ça reste à faire. La vraie réforme des retraites reste à faire.
Est-ce que dans ce que vous entendez aujourd'hui dans le débat public, qui est un débat dominé évidemment par la prochaine élection présidentielle, vous entendez justement des propositions de réformes systémiques? On a quand même l'impression que ce qui domine, ce sont encore les ajustements paramétriques, c'est-à-dire de dire, voilà, on va allonger la durée de cotisation, on va retarder l'âge légal de départ à la retraite, c'est ce que vous entendez.
C'est ce qu'on entend le plus, sauf chez quelques candidats. Il me semble que François Fillon, si je ne me trompe pas, propose quand même un pilier par capitalisation, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et Bruno Le Maire, pour ce qui est des candidats à la primaire de droite, hein, bien évidemment. Pour les autres, je ne sais pas.
Quitte à ce qu'on réforme le système de retraite, Christophe Rameau, est-ce qu'il faut faire un grand saut, c'est-à-dire en repensant complètement l'architecture, ou bien est-ce qu'on peut continuer à se contenter de jouer sur les paramètres? Alors, je parlais de la durée de cotisation, je parlais de l'âge légal de départ à la retraite, il y a aussi par exemple le montant des cotisations retraite, et voir d'ailleurs à qui les paye, ou le montant des pensions, c'est-à-dire il y a suffisamment peut-être de paramètres, non, pour réussir à prolonger, à pérenniser notre fameux système de retraite qui fait tant rêver, comme vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, d'ailleurs, le mot pseudo-péjoratif de paramètre, il y a des choix politiques qui sont tout à fait nobles, qui sont à l'œuvre. Hein. Pendant longtemps, on a décidé de cotiser dans la bonne humeur. D'accord, de cotiser dans la meilleure et donc d'augmenter les taux de cotisation tout simplement parce qu'il y a plus de retraités. La réforme libérale qui consiste à passer à la capitalisation, alors le comble c'est quand même, il y a la crise de 2008 qui est passée par là.
Elle n'est pas libérale, les pays l'ont fait, oui, Suède, c'était la gauche d'ailleurs.
Peu importe, c'est libéral de mon point de vue et donc cette réforme qui vise à favoriser la capitalisation, la crise de 2008 est passée par là. C'est-à-dire qu'avec la crise de 2008, les pays qui ont adopté des réformes libérales d'introduction de la capitalisation, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que la crise de 2008, elle a été tellement énorme qu'on a oublié parfois l'accessoire. Il y a des fonds de pension qui ont fait faillite. Il y a des niveaux de vie des retraités qui ont chuté brutalement. Donc, le discours libéral qui consiste à dire que la capitalisation, ça assure la viabilité des retraites, enfin, on a l'exemple exactement inverse. Et puis, on a des effets systémiques. Les effets systémiques, c'est quoi? La retraite par répartition, c'est pas simplement un coût. On prélève des sommes, 300 milliards pour les retraites. Et ces sommes, on les distribue aux retraités. Qu'est-ce qu'ils font, les retraités, avec? Mais ils consomment auprès de qui? Auprès du privé. En fait, on s'aperçoit que ce qui a permis à la France d'échapper à la dépression, on stagne, on ne peut pas s'en satisfaire, mais ce qui a permis à la France d'échapper à la dépression, c'est la dépense publique, y compris ces 6 dernières années. C'est grâce à la dépense publique, notamment les dépenses de retraite, que la consommation des ménages ne s'est pas effondrée, comme cela a été réalisé dans d'autres pays. Inversement, si on passe à la capitalisation, on favorise la financiarisation des économies, on favorise le pouvoir exorbitant de la finance dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'il détruit les logiques d'entreprise, qu'il joue contre la croissance à long terme. Je termine sur un point. Ce que nous montrent les travaux du corps, et ça c'est passionnant, c'est que, et y compris contre un certain parfois discours critique, là je prêche contre une partie peut-être de ma paroisse, il y a certains discours critiques aujourd'hui à la mode sur la décroissance, ce que nous montrent très clairement les travaux du corps, à l'instar d'autres travaux, c'est que ce qui dépend avant tout, la viabilité des systèmes de retraite dépend avant tout de la croissance. Voilà. Hein, il y a des scénarios à 1% ou à 2% sur le long terme. Dès qu'on est à 2%, il y a même des excédents, hein, qui sont prévus. Inversement, bien entendu, si on est dans la récession, si on est dans l'arrondissement sans fin dans la crise, ben là, il y a un problème de financement.
Donc il faut des politiques qui favorisent la croissance, oui, pour pouvoir pérenniser le système de retraite.
Et tout se tient. La retraite par répartition favorise la stabilité économique et la croissance durable.
Alors avant peut-être que de demander à Monica Kaiser de faire l'arbitre peut-être sur cette question, en tout cas de l'impact que peut avoir le système par capitalisation lorsqu'il y a des crises financières. Ouais. Est-ce que vous partagez en tout cas ce point de vue, Nicolas Lecossin? En tout cas, la crise financière de 2008 a quand même extrêmement fragilisé cette idée d'une retraite par capitalisation. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on n'en entendait plus beaucoup parler ces dernières
années.
Justement,
non. Dans notre étude qu'on vient de publier sur la création d'un compte personnel retraite, nous citons d'ailleurs l'étude de l'OCDE Panorama des pensions 2015 qui est sortie donc en 2016, et on trouve que les fonds de pension ont très bien résisté à la crise de 2008 de 2009. Je parle bien des vrais fonds de pension. Il ne faut pas confondre avec des fonds d'entreprise. Épargne d'entreprise, retraite d'entreprise, là c'est complètement différent. Les fonds de pension, les pays qui ont des fonds de pension, des vrais fonds de pension comme les Pays-Bas, comme d'autres pays, là les fonds de pension ont résisté. Est-ce que vous savez le pays où les retraites sont les plus élevées? Ce sont les Pays-Bas, toujours d'après l'OCDE. Et dans les Pays-Bas, les fonds de pension représentent environ 144% du PIB. En France, c'est 0,4% du PIB. Donc on voit quand même qu'il y a, on ne pose pas le problème de faillite des fonds de pension. Il y a des soucis, les rendements ont baissé, bien évidemment, durant 2 ou 3 ans, même pas 3 ans, et ils ont repris après rapidement. Les fonds de pension, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas voir à court terme, comme pour les retraites d'ailleurs.
Alors que nous dit sur ce sujet la directrice de la division politique sociale de l'OCDE, Monica Kaiser. C'est-à-dire déjà sur la faculté qu'ont eu les fonds de pension et donc ces systèmes par capitalisation à résister à la crise financière de 2008.
Alors il faut distinguer deux choses. Un, c'est les fonds de pension, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui étaient proches de la retraite? C'est pas la même chose. Les fonds de pension, dans beaucoup de pays, évidemment, ils ont regagné, mais pas complètement ce qu'ils avaient perdu. Il faut dire quand même s'ils remontent au niveau où ils étaient avant, il y avait des années de pertes entre-temps. Donc on peut pas dire qu'il n'y avait pas d'effet. Ouais. Deuxièmement, qui a été le plus touché, c'était des gens qui étaient très proches de la retraite. Parce que dans beaucoup de pays, les retraités eux-mêmes étaient assez protégés parce qu'ils recevaient déjà une retraite. Mais les gens qui voulaient, dans les pays où il y a beaucoup de poids de retraite privée, qui voulaient partir en retraite, étaient parfois obligés de ne pas partir ou partir avec beaucoup moins d'argent. Donc ça, il faut voir très clairement. Mais aujourd'hui, il se pose un problème tout autre qu'on n'a pas prévu et qui a changé la donne dans beaucoup de pays. Et c'est le niveau extrêmement bas des rendements financiers partout dans le monde. Et là, par exemple, en Allemagne, qui a eu une plutôt bonne expérience avec ce qu'on appelle la retraite Riester, c'est une petite, c'est une cotisation jusqu'à 4% qu'on économise. Les gens étaient plutôt contents, c'était très subventionné par l'État. Maintenant, on s'en rend compte que s'il n'y a plus de rendement, qui profite de ça? C'est les banques et les assurances. Parce qu'il y a une structure assez opaque des frais, comme on a en France d'ailleurs, pour les frais, essayer de voir exactement quels sont les frais d'assurance vie. Hein, pour... et beaucoup de gens ne savent pas.
Et est-ce que ça se traduit, Monica Kaiser, dans des pays où les fonds de pension étaient développés, où la retraite par capitalisation était développée, par une remise en cause de ce système et par des débats peut-être pour dire peut-être qu'il faut qu'on injecte davantage de répartition dans notre système de retraite?
En Allemagne, par exemple, il y a ce débat. Mais les forces politiques et même le Parti social-démocrate qui était en opposition, qui était souvent contre ça, même si Rista faisait partie de ce groupe, il a quand même reconnu maintenant, on va pas venir en arrière, mais il y a un grand débat public. Qui met en question, en tout cas, la structure. Parce qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'on économise pour quelque chose où on n'a pas de rendement, mais à la fois, on paie des frais. Donc, il y a vraiment un vrai débat là-dessus. Mais les pays où les fonds de pension sont très bien installés, comme en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, par exemple, ils vont pas arrêter leur système. Non.
C'est vrai que vous n'avez pas forcément choisi le meilleur moment pour relancer cette idée d'une mise en place des fonds de pension, Nicolas Lecossin.
D'abord, il y a des fonds de pension en France, il y a la capitalisation en France, les fonctionnaires. On a la capitalisation en France. Il y a le préfonds, il y a le RAFP, le revenu additionnel à la fonction publique. C'est une épargne qui est capitalisée. Les fonctionnaires territoriaux ont le fonds PEL, qui c'est un fonds par capitalisation. Les sénateurs, c'est une retraite par capitalisation. En France, on ne sait pas ça. Pourquoi eux ils auraient droit et pas le privé pour épargner pour la retraite? C'est la capitalisation.
Non mais le privé, il y a autant de voix que le public. Il y a des fonds supplémentaires par capitalisation qui sont ouverts aux salariés du privé en France.
Ce ne sont pas des fonds de pension.
Mais c'est des fonds par retraite supplémentaire, ça fonctionne comme des fonds de pension.
Non.
Écoutez, mais si. Donc par contre, la question, à mon avis, qui se pose, c'est que on présente parfois les fonds de pension comme une recette magique. Il faut savoir qu'en fait, fondamentalement, tout fonctionne toujours par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours d'une année, on ne peut distribuer que les revenus que la richesse monétaire produite au cours de l'année. Ce qui change entre ce qu'on appelle la répartition et la capitalisation, parce qu'il y a bien une différence, c'est que avec la répartition, vous faites un choix politique d'inscrire les retraités dans le salariat. C'est-à-dire que vous dites, on prélève des cotisations sur les salaires, et en quelque sorte, les retraités, c'est des salariés. Aujourd'hui, un retraité, c'est un salarié qui ne travaille pas, bien entendu, mais qui touche un salaire, puisque sa retraite est une fraction de la masse salariale. Ce qui change avec la capitalisation, c'est qu'on transforme le retraité en rentier. C'est-à-dire que son droit à retraite, il va pas l'attendre de son statut de salarié qui est financé par cotisation, il va l'attendre de rente financière. Alors, pour les libéraux qui considèrent que la finance libéralisée c'est merveilleux, que ça favorise la croissance, ben on conçoit bien entendu que ça va dans le bon sens.
Mais on peut pas avoir un système qui permet d'avoir justement ces deux systèmes, c'est-à-dire à la fois de la capitalisation et de la répartition, et à voir comment on dose l'un.
Écoutez, je suis normand, j'aime bien la Normandie, mais les réponses de Normand sur des questions politiques aussi essentielles, ça ne fonctionne pas. Il faut faire des choix. Et par exemple sur les fonds de pension, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces 20 dernières années, en particulier aux États-Unis, mais aussi ailleurs. La preuve que la finance ne garantit pas les retraites, ce qui est quand même pas rien, c'est les vieux jours. C'est qu'en fait, on est passé d'un régime de prestations définies, c'est-à-dire où la retraite est définie, à un régime de prestations à cotisation définie. C'est-à-dire que la seule chose qui est garantie avec les fonds de pension, c'est ce qu'on paye. Mais on ne saura pas du tout ce qu'on touche. Et tout ça lié aux crises successives qu'ont connues les fonds de pension. Donc ça crée y compris une insécurité très forte pour les retraités.
Nicolas Lecossin. Non,
tout d'abord, d'après ce que je sais, là, sur le regard attentif de Mme Kessler, il n'y a que 3 ou 4 pays au monde, importants, hein, où il n'y a que des fonds de pension et capitalisation. Dans les autres pays, il y a plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs piliers. Vous avez une retraite par points, une retraite de base, compte notionnel et aussi capitalisation. Donc vous avez même en Suisse, en Allemagne, ce sont plusieurs piliers.
Et aux États-Unis, vous avez raison, on sera d'accord sur ce point. Contrairement à l'image qu'on a, la majorité des retraités américains vivent avec la retraite par répartition. Et c'est ce qu'ils appellent la Social Security. C'est très important pour eux.
Et au Royaume-Uni, c'est très compliqué aussi.
Au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus faible. Mais
vous avez tout ce qu'il faut.
Les retraités américains vivent majoritairement grâce à la répartition.
Vous avez la possibilité aussi de capitaliser, contrairement à la France. C'est ça la différence.
Oui,
je crois que c'est très intéressant cette discussion parce qu'en fait, c'est pas noir et blanc. On rajoute une dose de capitalisation. Ouais. Ça peut être volontaire, ça peut être parfois aussi, c'est obligatoire dans quelques pays, mais on peut aussi inciter les gens de le faire. Et en France, vous avez quand même énormément de gens qui ont des contrats assurance vie. Ça, c'est une forme de capitalisation. C'est pas pareil parce que c'est pas à long terme.
C'est l'État qui confisque.
C'est aussi
pour s'assurer ses vieux jours, quoi,
disons. Oui, voilà.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Le problème des retraites appartient-il au passé? C'est la question que nous posons ce soir à Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, à Christophe Rameau, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, et à Monica Kaiser, qui dirige la division politique sociale de l'OCDE, qui est membre du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Alors on évoque ces pistes de réforme, de changement systémique du système de retraite, mais peut-être n'a-t-on pas assez parlé des raisons qui justifieraient que l'on change à ce point notre système, et ça revient à s'interroger sur le fait de savoir si c'est un système qui aujourd'hui finalement répond aux exigences qu'on lui donne, c'est-à-dire d'être un système juste, à la fois qui assure la solidarité entre les générations, entre les actifs et entre les retraités, et qui assure également l'équité. Du point de vue de la solidarité, est-ce que vous diriez les uns et les autres que nos systèmes de retraite fonctionnent plutôt bien, ou bien est-ce que là aussi il y a des progrès à faire, Monica Kaiser?
Alors, le système est assez solidaire en France. Bon, déjà, par définition, un système de retraite est solidaire entre les générations parce que c'est les actifs qui paient les retraites pour ceux qui sont en retraite. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair. Mais il y a beaucoup de redistribution aussi à l'intérieur du système. Et parfois, ça peut être assez opaque parce qu'il y a plein de prestations, par exemple, pour les gens qui sont au chômage, après, pour les gens qui ont des enfants, des femmes qui s'arrêtent. Et tout ça, c'est bien et c'est voulu. Mais si on a beaucoup de ça, au bout d'un moment, c'est difficile de savoir comment la solidarité fonctionne au profit de qui. Et donc, il faut voir très clairement comment orienter ces flux, parce que parfois on peut aussi avoir des effets qui ne vont pas dans la bonne direction.
Enfin, elle fonctionne, semble-t-il, de moins en moins bien, puisque le taux de remplacement, c'est-à-dire que le niveau de la pension de retraite qu'on a par rapport à son salaire, a tendance à constamment diminuer. Donc on voit bien à quel point ça devient aussi un problème. Non, Christophe Rameau ?
Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, en fait, les règles paramétriques libérales qui ont été introduites ces 20 dernières années vont conduire dans les prochaines années à une baisse du taux de remplacement. Mais pour l'instant, ce qui l'emporte, c'est ce qu'on appelle l'effet Noria, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent aujourd'hui à la retraite, notamment les femmes, ont des meilleures carrières, et donc malgré ces réformes, en fait, le niveau de retraite encore aujourd'hui a tendance à augmenter. Mais donc, par contre, là où vous avez raison, c'est que les projections à l'horizon 2040-2060 prévoient effectivement une baisse du taux de remplacement. Mais attention, malgré tout, ça signifie pas une baisse du niveau des pensions. Hein. On est aujourd'hui à peu près, le niveau de vie des retraités aujourd'hui en France est à peu près de 1 pour 1 par rapport à celui des actifs en moyenne. On estime, d'après les travaux du corps, qu'on va passer aux alentours de 80. D'accord? Mais malgré tout, ça se traduira par une hausse du niveau de vie des retraités par rapport aux retraités d'aujourd'hui de l'ordre de 50%. Avec des petits écarts selon les scénarios de croissance. Donc, attention. Pas de discours catastrophique sur le sujet. Je reviens sur un point sur
pour faire une petite insiste par rapport à ce que vous venez de dire, on parle évidemment de moyenne, puisqu'il y a évidemment ceux qui ont les pensions les plus modestes qui viennent là, enfin qui vont bénéficier d'un petit coup de pouce du gouvernement, bon, toujours en année préélectorale. Hein, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y aura une baisse, voire une exonération pour environ 500 000 de ménages de la CSG, donc pour les retraites les plus modestes. Je vous redonne tout de suite la parole, Christophe Rameau, mais Monica Kessler, vous vouliez réagir à ce qui a été dit.
Oui, parce que dans les retraites, il y a, comme j'avais dit, il faut regarder le long terme. Il ne faut pas oublier non plus que l'espérance de vie pendant la retraite pour les gens qui arrivent à 60 ou 65 ans est en train d'augmenter aussi. Et donc, il ne faut pas juste regarder quel est la retraite au début de la retraite, mais aussi le temps que les gens la perçoivent en moyenne. Et ça, c'est quand même une avance spectaculaire et très positive qu'on a des gens qui vivent en France. L'espérance de vie, c'est spectaculaire. Vous êtes au même niveau que les Japonais. Et surtout, les femmes françaises vivent 27 ans dans la retraite, ce qui est magnifique. Mais il faut financer 27 années pendant la retraite par les actifs. Et donc, il faut voir le niveau et la durée ensemble.
Petite réaction de Nicolas Lecossin, et ensuite, on laissera Christophe Rameau conclure, enfin, en tout cas, terminer son intervention précédente. Nicolas Lecossin.
Moi, j'aimerais donner l'exemple de la Suède, la réforme de la Suède des années 90. Le système suédois de retraite, il était comme le système français aujourd'hui, tel qu'il est par répartition. Les Suédois se sont dit, ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus durer comme ça. Il n'est pas solidaire, c'est pas normal que les actifs cotisent pour les retraités. Ils l'ont réformé. Alors, ils ont rassemblé des techniciens, des spécialistes, ont laissé à la porte les syndicalistes, alors que les syndicats sont beaucoup plus puissants qu'en France, et ils ont fait plusieurs piliers, dont un par capitalisation, par point. Ils ont complètement transformé le système qui existe encore aujourd'hui. Donc voilà quelque chose qui... La retraite en Suède, c'est plus un choix maintenant. On peut partir, on reçoit tous les ans une enveloppe avec... On sait exactement ce combien on touche si on part demain à la retraite, et on peut prolonger la vie active, on peut partir plus tôt. Donc c'est plus un choix qu'une décision du gouvernement. Donc
sur les questions de solidarité, est-ce qu'ils se sont dit également, ça n'est pas normal, par exemple, que ce soit les... Alors je connais pas le système suédois, mais est-ce qu'ils se sont dit, ça n'est pas normal que ce soit avant tout les revenus du travail qui financent le système de retraite, et il faudrait peut-être que les revenus du capital soient un peu plus mis à contribution, parce que c'est une question qui peut se poser aussi aujourd'hui en France.
C'est pas les revenus du capital, ils ont un petit pilier capitalisation, ils ont un pilier complémentaire, ce qu'on appelle complémentaire. Ils ont revenus de base par répartition, mais donc ils ont plusieurs piliers. Donc ils ont. Mais c'est ce qui m'a étonné. Je suis allé en Suède voir comment ça s'est passé. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est plus un choix. C'est-à-dire qu'on peut partir, c'est indexé sur la croissance économique et tous les ans ils savent combien ils touchent. s'ils partent à la retraite dans 3 jours, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Donc, ils peuvent choisir leur date de départ à la retraite en fonction de nombre de l'épargne accumulée et des cotisations.
Christophe Rameau.
Oui, enfin, une des promesses de la réforme suédoise, c'était que ça serait plus lisible. En fait, c'est pas du tout lisible, puisque suite à la crise financière, ce qu'il y a dans l'enveloppe a considérablement bougé et ce qui a créé de l'insécurité. Donc, si vous voulez, quand vous avez dit tout à l'heure que ce ne sont pas, en Suède, ce ne sont pas les actifs qui payent pour les retraités, mais c'est pas possible. Bien entendu, qu'en Suède, que ça soit par capitalisation ou par répartition, je répète, il y a des gens, les actifs, c'est ceux qui produisent de la richesse monétaire, c'est ce qu'on appelle le PIB, côté production, et ce même PIB, c'est l'un des nombreux charmes du PIB, c'est ce qu'on appelle les 3 approches du PIB. On a le même chiffre, 2100 milliards à peu près en France, production et revenus. Et donc les retraites, c'est une forme de revenu. Et je vous dis, si on choisit la capitalisation, ça passe par des revenus financiers. C'est la seule chose qui change. Si on passe par la répartition, ça passe par des revenus salariaux. Alors, je reviens sur les défauts quand même du système. Parce que je pense qu'il faut défendre le système. On a un très beau système qu'il faut d'abord et avant tout défendre. Mais il faut savoir nettoyer devant sa porte. Et les défauts, ils viennent d'où ? Ils viennent pour l'essentiel des origines en partie libérales de notre système de retraite. Il faut savoir que, et de ce point de vue-là, il y a une date clé qui est 1910.
Vous avez fait un pari pour prononcer le mot libéral le plus grand nombre de fois ce soir, hein, Christophe Rameau.
Non, mais là, regardez, avec une ambiguïté, là, regardez, 1910, la retraite ouvrière et paysanne. On a donc une retraite qui est une retraite. La CGT, à l'époque, se prononce contre cette retraite sur le thème ça va être une retraite pour les morts, les ouvriers ne vivent pas jusqu'à 65 ans. Jaurès dit. Si, il faut quand même accepter cette retraite alors qu'elle est par capitalisation. Parce que ça met le doigt malgré tout. Bon, et alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie qu'historiquement, notre système de retraite, tout comme notre système de protection sociale, il est né des assurances sociales. Dans assurance sociale, c'est un compromis. Le mot assurance rassure les libéraux, même s'il s'oppose à l'obligation, c'est-à-dire au social. Le mot social rassure les socialistes. Mais le produit de ça aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, c'est quoi? C'est qu'on a effectivement des régimes. Alors, il y a eu quand même un rapprochement très fort des régimes. On a des régimes complémentaires, on a des régimes de base qui peuvent être diversifiés. Jusqu'à il y a peu de temps, il existe un régime de base spécifique des cantonniers de l'Isère. Je ne sais pas s'il existe toujours, je pars sous votre surveillance. Mais voilà, donc on avait des dizaines de... Alors tout ça a été largement, donc on a réformé dans le bon sens, tout ça a été largement rapproché. La question que je me pose, moi, la question que je conteste, c'est que on a rapproché en partie, en perdant de vue... le fait que dès lors qu'on n'a plus de retraités, il faut consacrer une plus grande part de la richesse pour les retraites. Là, ce qu'on a prévu avec les réformes libérales de ces dernières années, c'est on a prévu de ne plus augmenter les taux de cotisation. Et ça, je pense que c'est dramatique pour notre cohésion sociale. Le taux de pauvreté qui avait considérablement le taux de pauvreté au seuil de 50%. En France, il était à 28% en 70 au seuil de 50%. On est à moins de 5% aujourd'hui. 70, c'est la fin des Trente Glorieuses, parce qu'on a toujours tendance à enjoliver les Trente Glorieuses. Non, faut savoir que durant les Trente Glorieuses, il y avait plus de pauvres qu'aujourd'hui, et c'était le pauvre des Trente Glorieuses, c'était le vieillard indigent à la porte de l'hospice. Grâce à notre beau système par répartition, on a éradiqué la pauvreté chez les retraités, et elle risque de rebondir à cause de ces réformes libérales.
Monica Kessler.
Alors, c'est sûr que les retraités en France vont relativement bien. Et c'est pas seulement en France, c'est dans beaucoup de pays. Mais le problème se pose aujourd'hui pour les jeunes. Et je trouve que quand on parle retraite, on ne peut jamais parler seulement retraités, mais on doit voir ça comme un contrat entre des générations. Et quand on voit que ça va très bien pour les retraités, mais les jeunes ne trouvent pas s'insérer sur le marché de travail, qui d'ailleurs souvent sont aussi heurtés par les très hautes cotisations. Bien sûr, on peut augmenter les cotisations. Il y a des pays qui sont encore plus qui ont des cotisations encore plus élevées, mais il faut savoir que ça joue sur le marché de travail aussi.
Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faudrait que les retraités fassent des efforts pour qu'il y ait davantage de solidarité à l'égard des jeunes générations ?
Il faut équilibrer les deux. Et donc il faut savoir que c'est un choix d'une société de dépenser beaucoup d'argent pour les retraites. Si on veut faire ça, très bien. Mais il faut savoir qu'on peut déjà, on a en France les plus hautes dépenses sociales, ouais, avec un très bon effet, comme vous avez très bien dit. Ça va beaucoup mieux que dans d'autres pays. Mais après, la question est, avec le vieillissement, est-ce qu'on veut dépenser plus et plus et plus? Et si vous arrivez à une situation où vous avez 40% du PIB qui va être dépensé en dépenses sociales, est-ce que c'est tenable? Qui va le financer? Et est-ce qu'on va pouvoir financer ça par des cotisations? Sinon, on peut passer aux impôts, ça aussi, mais les impôts doivent aussi être payés par des gens qui travaillent.
Alors évidemment, parler du système de retraite français en 40 minutes, c'est mission impossible parce qu'il y a énormément de sujets dans ce grand sujet qui mériterait chacun une émission. Mais puisqu'on vient parler de la question de la solidarité, il y a une autre question que je voudrais qu'on aborde brièvement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est celle de l'équité, même si vous l'avez abordé brièvement tout à l'heure, Nicolas Lecossin, et notamment la question de l'équité entre les régimes de retraite des fonctionnaires et ceux du secteur public et ceux du secteur privé. Alors, dans le cadre de la campagne de la primaire à droite, il y a plusieurs candidats, notamment Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, qui proposent de faire basculer directement les fonctionnaires en activité dans le régime général. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui évoquait ce sujet il y a quelque temps, qui disait attention, il y a sans doute davantage d'inconvénients que d'avantages à aller vers ce système-là. Quel est votre point de vue à vous, Nicolas Lecossin?
Tout d'abord, le système français est très inégalitaire. Contrairement à ce qu'on dit. Vous avez quand même environ, je sais pas, 200 régimes de retraite différents. Si on met les régimes de retraite spéciaux, très spéciaux, c'est des fonctionnaires jusqu'aux aiguilleurs du ciel ou de la Banque de France qui sont très avantagés. Il ne faut pas oublier que ces régimes de retraite sont payés par les contribuables, par les privés surtout. Les fonctionnaires n'ont pas de caisse de retraite. C'est l'État qui est l'employeur qui paye, mais l'État c'est nous, ce sont les contribuables. Donc les fonctionnaires ne cotisent pas une caisse comme nous cotisons à une caisse de retraite ou comme à la CNAV ou à aux caisses complémentaires. Donc là aussi c'est un trou énorme de, je sais pas, 50 milliards par an en gros. Ce sont des choses qu'il faudra payer.
Donc il faudra un même régime pour tout le monde?
Il faudra un même régime pour tout le monde, il faudra qu'ils cotisent comme le privé, il faudra qu'ils aient les mêmes taux de remplacement que dans le privé, alors qu'ils sont, la retraite dans le public, c'est 75% du dernier salaire. Dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Nous sommes à 56% en gros pour les cadres et ça a baissé. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les cadres, le taux de remplacement a baissé énormément ces dernières années. D'où aussi l'affirmation de la ministre de la Santé.
Est-ce qu'il y a des efforts en matière d'équité à faire, Christophe Rameau?
Les travaux montrent que, contrairement à ce qui vient d'être dit, le niveau de retraite du public à qualification égale est le même que pour le privé. D'accord?
La moyenne dans le public est largement plus élevée que dans le privé.
Non, à qualification égale. C'est-à-dire que il y a plus de...
Vous
avez remarqué que dans la fonction publique d'État, il y a beaucoup d'enseignants, donc qui sont considérés comme cadres pour le privé. Et donc là, pour le coup, pour les enseignants notamment, donc il faut savoir que toutes les primes dans le public ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la retraite. Donc quand on prend en compte tous les effets, on a un niveau similaire. Alors sur la question de l'équité, il y a la question de public privé. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut aller effectivement. Moi, je suis pour une maison commune des retraites, mais en allant vers le haut, d'accord, en allant vers le haut et non pas vers le bas à temps de protection.
Aller vers le haut, ça serait quoi? Ça serait aligner le privé sur le public ou l'inverse?
Bien sûr, ça serait...
Parce que vous nous dites, en même temps, les pensions sont à peu près les mêmes. Donc
Mais ça dépend. Ben, ça dépend. Par exemple, les primes dans le public sont pas comptabilisées pour la retraite. Voilà, ce qui est le cas du privé. Donc voilà. Donc l'idée globale, c'est qu'il n'y a pas lieu de retenir ce discours catastrophique sur le thème. Il faut baisser les pensions. Sur la question des jeunes. Faut savoir que là, des jeunes, on a repoussé l'âge de la retraite, alors qu'aujourd'hui, on manque pas de main d'œuvre. On serait au plein emploi, on manquerait de main d'œuvre. Je serais pour discuter de la question de repousser de l'âge de la retraite. Mais là, aujourd'hui, on manque pas de main-d'œuvre, on manque d'emploi. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Outre que le taux de chômage des seniors a augmenté, eh bien, bien entendu, le taux de chômage des jeunes a lui aussi augmenté à cause de ce recul de l'âge de la retraite. Donc, on a là des mesures qui, d'un point de vue économique, ne se justifient pas et qui ne vont pas dans le sens de l'équité.
Voilà, j'imagine que vous pouvez tomber d'accord sur cette idée que, déjà, si on favorisait l'emploi des seniors, c'est-à-dire avant l'âge de la retraite, parce qu'il y a énormément de pré-retraite, ça permettrait déjà aussi peut-être d'aborder cette question de manière un peu plus sereine. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Monica Kayser, Nicolas Lecossin et Christophe Rameau. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Émission téléchargeable pendant un an que vous pouvez également commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Antoine Tricot, Fanny Richet, Mathilde Barbier, Isdolt Sicard, émission réalisée par Viviane Noël avec à la prise de son Bruno Gagnard Fontanille. Demain, ce sera notre émission en partenariat, comme chaque mois, avec le journal La Croix. Un des grands sujets de la présidentielle, la laïcité est-elle la géométrie variable ? Ce sera à partir de 18h20. Tout de suite, c'est le sommaire de ping-pong avec Mathilde et Martin. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé.
Et ce soir, la table de ping-pong est toute renversée, Hervé, avec la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin et le metteur en scène Jean-Pierre Barraud qui adapte au théâtre Disgrâce du non moins sud-africain Kodzi.
Et puis, nous aurons un ancien colonisé au nom de guerre rebelle. Il s'appelle Bonga Bonga Kwenda, chanteur angolais, viendra nous présenter son nouvel album en live.
A tout de suite, Mathilde et Martin, il est 19h.